Seigneur Jésus a dit, en Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » La parole de Dieu est la vérité, elle ne se discute pas, vaut mieux y obéir. Ange Kessé Ministries vous présente la collection Résurrection et Vie. Au travers de ce message, nous prions que vous ayez une vie chrétienne heureuse, prospère et porteuse de fruits. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.
Jamais prendre possession de Jéricho. Donc je suis ce matin là pour te dire que tu ne dois pas regarder à l'œil physique. Tu ne dois pas regarder à ce que tu vois. Mais tu dois regarder avec les yeux spirituels. Parce que ce que tu vois s'attache à toi. Ce que tu vois, c'est-à-dire quand tu vois quelque chose dans ton esprit, prophétiquement parlant, tu conçois cette pensée dans ton cœur. Et si tu crois en cette pensée, elle se réalisera au nom de Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu est la vérité. La clé de David. Mais avant de parler encore de la clé de David, je crois fermement par la puissance de Dieu que tu n'es pas en cet endroit par hasard. Je crois fermement par la main de Dieu que le Saint-Esprit ce matin programme pour toi. Je crois fermement par la puissance de Dieu que Dieu t'accompagnera vers ta destinée ce matin. Je crois fermement par la parole du Seigneur que quelque chose peut se produire à Toulouse de par toi. Même si les hommes ne croient pas en toi, toi tu peux croire en toi-même. Alléluia. Je dis, je crois fermement par la main de Dieu que tu peux être la solution à la ville de Toulouse. Ce matin, j'ai un rêve, alléluia. Mon rêve, c'est de voir Dieu nous donner les clés de cette ville. Mon rêve, c'est de voir toutes les familles de Toulouse être gagnées à Jésus. Mon rêve, c'est de voir l'église aller dans une autre dimension. Le problème, c'est que Dieu nous a déjà tout donné. Alléluia. Il dit, le voile a été déchiré et tout a été accompli. Alléluia. Si Dieu me dit que tout a été accompli, c'est que le célibat a été brisé à la croix. C'est que la malédiction a été brisée à la croix. C'est que la pauvreté a été brisée à la croix. Mais c'est à moi de concevoir ce que Dieu a déjà brisé dans le temps passé. C'est pourquoi il dit, par tes maîtres et par mes meurtrissures, vous avez été guéris. Il n'a pas dit vous êtes guéris, mais il dit vous avez été guéris. Donc tout déjà montre par la parole de Dieu que je suis déjà vainqueur depuis le commencement. Donc il faut concevoir ton esprit. Oh Jésus, dis avec mon Seigneur, donne-moi la ville de Toulouse. Alléluia. Même si tu es un homme d'affaires, alléluia. Même si tu cherches du travail, répète après moi, Seigneur, donne-moi Toulouse. En le répétant, Dieu te donnera un travail à ta hauteur. En proclamant cette parole, Dieu te donnera un ministère à ta hauteur. Tu n'es pas né pour la bassesse, mon frère, alléluia. Tu n'es pas né pour échouer. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Il n'a même pas dit zéro. Il dit rien. Le diable est, ça dit comment dirais-je, équivaut à qui? À zéro. Il n'a même pas dit un. Non. Tout va dépendre de notre mentalité. Alléluia. Tout va dépendre de notre mentalité. C'est pourquoi je vous assure que, je disais à quelqu'un hier que, il y a une différence. Si tu donnes tout à l'heure, peut-être que 10 millions à deux frères, 10 millions ici, 10 millions ici, ce n'est pas les 10 millions qui changent la vie d'un homme. Mais c'est la mentalité du Saint-Empire qui est en toi. C'est-à-dire, quand je viens, tu recevras cette somme. C'est à toi de me dire, de te dire que maintenant que j'ai les 10 millions, je dois maintenant seulement avoir un caractère d'un millionnaire. C'est le caractère que tu as en toi qui peut te changer. Ce n'est pas ce qu'on te donne qui peut te changer. C'est pourquoi même quand tu n'as rien, il faut avoir un caractère de vainqueur. Parce que tu n'es pas équivalent à ce que ça dit. Ce que tu as, on ne te qualifie pas en fonction de ce que tu as. Mais on te qualifie en fonction du caractère qui est en toi. C'est pourquoi dis à ton ami, Seigneur, donne-moi Toulouse. Si tu le dis, je t'assure que la percée spirituelle sera ton partage. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Mon objectif pour vous, c'est de faire, que, de faire de sorte que chaque chrétien soit à la tête dans son milieu. Dans ton foyer, que tu sois à la tête. Dans ton ministère, que tu sois à la tête. Chez toi, à la maison, à la tête. Au travail, à la tête. De sorte que nul n'arrive à t'invincer au nom de Jésus. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Lève les deux mains vers le ciel. Répète après moi, Seigneur Jésus, ce matin, donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit, afin que ce matin, je règne avec toi, aujourd'hui, demain et à jamais. Seigneur, mets-moi sur mon chemin, afin que je règne. J'appelle les portes au-devant de moi. La porte de la percée, la porte du succès. Seigneur, change ma mentalité. Change ma mentalité. Et que je marche comme un grand. Comme un grand. Au nom de Jésus, je veux soumettre mon esprit à ta parole, à ta volonté. Et ta volonté, c'est que je réussisse. Ta volonté, c'est que je sois à la tête. Ta volonté, c'est que je sois premier et non dernier. Ta volonté, c'est que je réussisse. Ta volonté, Seigneur, c'est que l'or et l'argent soient à moi. Ta volonté, c'est que je marche de succès, de percée en percée. Au nom de Jésus, maintenant, je déclare que mon esprit soit en harmonie avec ta volonté, au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Pourquoi est-ce que ton esprit doit être en harmonie avec ta volonté? Parce que vous savez, souvent Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Mais déjà, le diable nous fait croire qu'on n'est pas né pour cela. Et quand le diable te fait croire le contraire, ça fait que ton esprit n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Ça fait que quand même un miracle se présente à toi, tu crois que c'est le diable qui t'a présenté ce miracle-là. C'est de cela que nous allons parler ce matin. Dis à ton ami la clé de David. Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole. Je prie que Seigneur, tu viennes nous éclairer, Seigneur. Sois glorifié pour ce culte de vainqueur que nous avons ce matin. Saint-Esprit, je veux soumettre toutes choses à ta parole. Que ce lieu soit inondé de par ton esprit, de par ta grâce et de par ton feu. Je déclare maintenant et au nom de Jésus, que toute langue confesse que tu es Seigneur. Que nos ennemis confessent que tu es Seigneur. Seigneur, je vois ton peuple dans une autre dimension. Je vois ceux qui sont présents ce matin dans une autre étape de ta gloire. Envoie-les. Qu'ils vivent la percée. Que les foyers soient restaurés. Que leur vie soit restaurée. Et que ce matin, ta bouche soit ma bouche, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. On a parlé de la clé de David depuis le mardi. On a dit c'est quoi la clé de David? Alléluia. Vous savez, la clé de David est une, ça dit, amen, amen, est un don que le Saint-Esprit donne, amen, amen, à nous qui sommes chrétiens. Alléluia. Parlant de la clé de David, vous savez, quand on rentre à l'église du Seigneur, amen, quand on parle de la bénédiction, de la grâce de Dieu, certains certainement assimilent la bénédiction, peut-être que aux vêtements, alléluia, à la couleur de peau, ou bien au sadique, à la manière soit de s'habiller, ou bien ouais, en fonction de ce que quelqu'un peut-être que dans l'assemblée peut avoir. Alléluia. La clé de David, c'est quoi? Le Seigneur pouvait dire, alléluia, il a dit à David, il dit, je mets sur tes épaules une clé. Alléluia. De sorte que tout ce que tu ouvres, nul ne puisse le fermer. Et de sorte que lorsque tu fermeras, nul ne puisse l'ouvrir. Alléluia. Et c'est un don que Dieu a donné aujourd'hui à l'église du Seigneur. Mais c'est à nous de comprendre que cette clé-là est en possession de tout le monde. Alléluia. Et si tu crois dans ton esprit que cette parole est pour toi, tu peux la recevoir. De sorte que le diable n'ait jamais autorité sur toi et sur ton ministère. Dis amen avec moi. Et le mardi, nous avons parlé de la première étape dans l'onction et la clé de David. Vous savez, quand on rentre soit la gendarmerie, alléluia, l'épaule est symbolisée comme étant un signe d'autorité. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur va dire, je mets sur ton épaule la clé de David. Mais c'est quoi la clé de David? Quand tu as la clé de David sur toi, quels que soient les programmes du diable à ton endroit, le diable n'aura jamais de victoire au nom de Jésus. Quand tu as la clé de David sur ta vie, ça fait que même tes ennemis autour de toi sont obligés de travailler pour ta propre gloire. Et la Bible nous dit quoi? On va prendre la Bible dans le livre de 2 Samuel 1, à partir du verset 1. On va lire quelque chose ensemble. Sois très vigilant parce que la parole de Dieu te fera du bien. Mon objectif, c'est que le Seigneur te donne tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. Le diable va te restituer tes biens. Il va te restituer tout ce que le Seigneur t'avait donné. Tu n'es pas né pour échouer. Oui?
2 Samuel chapitre 1.
Oui?
Verset 1.
Oui?
Après la mort de Saül.
Après la mort de Saül.
David, qui avait battu les Amalécites.
Oui?
Était depuis deux jours revenu à Tsiklag.
Oui?
Le troisième jour, un homme arriva du camp de Saül. Oui? Les vêtements déchirés et la tête couverte de terre.
Oui?
Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna.
Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. De qui nous parle ce texte? Alléluia. Vous savez, David, amen, amen. David était un homme simple. Alléluia. Qui était David? La Bible nous dit que David faisait partie de la tribu de qui? De Judas. Alléluia. Son père était qui? Son père était Esaïe. Et David était entouré de plusieurs frères. Et ces frères-là, ils avaient la capacité d'aller au combat. Ils avaient cette onction de pouvoir combattre. Alléluia. Mais la Bible nous dit que déjà très jeune, David avait déjà pour habitude de s'occuper, c'est-à-dire de s'occuper du troupeau de son père. Amen. À tel enseigne que même quand ses frères étaient au combat, vous allez constater que même dans la parole de Dieu, David n'avait pas lui le droit, il n'avait pas l'autorisation d'aller combattre auprès de ses frères. Et qu'est-ce que nous déclare la parole de Dieu? Vous savez, David avait reçu une onction royale. Comment est-ce qu'il avait reçu l'onction royale? La Bible nous parle d'abord du roi Saül. Saül avait reçu l'onction royale de par l'intermédiaire de qui? Du peuple, alléluia. Le peuple s'est élevé contre le Seigneur disant que nous voulons un roi. On a longtemps constaté que Samuel, tu es Dieu, tu es prophète, tu parles sur la parole, tu es au travers de la parole de Dieu, tu as la capacité de prophétiser, tu as la capacité de nous orienter, mais on arrivait à un temps où nous, peuple de Dieu, nous voulons un roi avec qui nous allons parler concrètement, un roi vis-à-vis de qui, c'est-à-dire de qui nous allons peut-être que présenter nos certaines doléances, alléluia, un roi qui va mieux nous comprendre et un roi qui pourra mieux administrer la région, alléluia. Et c'est ainsi que la parole de Dieu me déclare que Samuel est allé se présenter devant le Seigneur disant à Dieu, Seigneur, tu m'as établi en tant que prophète sur ce peuple-là. Mais voilà que le peuple maintenant ne me veut plus, mais le peuple décide maintenant d'avoir un roi. Et cette parole, le désir du peuple a offusqué Samuel à telle enseigne que même dans la mentalité de Samuel, Samuel n'était pas pour ce désir du peuple, alléluia. Mais voyant que le peuple insistait, une fois, je vous ai déjà parlé de la voix de Dieu. Vous savez, souvent quand vous venez à l'église et que vous insistez pour un miracle, une fois, deux fois, trois fois, même si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, le Seigneur pour vous octroyer ce miracle-là, dans l'esprit de vous satisfaire, mais cela ne se fera pas suivre de bonheur. C'est pourquoi la Bible nous dit que la bénédiction se fait suivre d'aucun chagrin. Or, une bénédiction qu'on acquiert par insistance vis-à-vis de Dieu a toujours un caractère négatif derrière. Dis amen avec moi. Et quand on prend un peu le cas de Samuel, Samuel a été offusqué en lui-même. Il est allé dans la présence de Dieu, dit à Dieu, Seigneur, regarde un peu la doléance de ce peuple-là. Ce peuple veut un roi. Et le Seigneur va lui dire, Samuel, non, arrête de te plaindre. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit d'être offusqué. S'il veut un roi, donne-lui un roi. Et c'est ainsi que nous déclare la parole de Dieu, que Saül, pendant qu'il y avait une situation dans sa vie, Saül allait chercher les brebis de son père. Et pendant qu'il allait chercher les brebis de son père, qui venait de sa vie, qui était égaré, c'est ainsi que il a croisé le prophète Samuel. Et Samuel va l'emmener manger à sa table. Pendant que Samuel emmenait Saül manger à sa table, Saül s'est cru déjà grand. Alléluia. Vous savez, souvent dans votre vie, je vais ouvrir une parenthèse. Même si vous marchez avec un homme de Dieu qui vous donne de l'honneur, il est important pour vous de connaître votre place. Dis amen avec moi. L'honneur que les hommes grands te donnent ne veut pas dire que certainement que toi, tu es peut-être que comparable ou bien peut-être que tu es égal à eux. Alléluia. Si un homme de Dieu ou bien une autorité, peut-être que de ta famille, de ta région et même ton propre père te donne de l'honneur, faut prendre cet honneur-là et il faut le regarder avec un œil. Or, quand Saül a entendu la parole de Dieu et qu'il est allé manger à la table de Samuel, il a cru qu'il était déjà l'égal de Samuel. C'est pourquoi Paul nous dit que ne donnons pas les nouvelles charges, des responsabilités dans l'église à de nouveaux convertis. Parce qu'un nouveau converti à qui on donne une nouvelle charge, cette charge-là peut se retourner contre lui-même. C'est pourquoi la Bible encore déclare, Matthieu, alléluia, que ne donnons pas des choses saintes au chien, de peur que le chien ne se retourne contre toi-même. Alléluia. Donc, il y a des choses saintes dans l'église qu'on ne peut pas donner à un nouveau converti. Alléluia. Donc, prenez un peu la parole de Dieu. Saül qui était simple, qui avait son père, qui était, ça dit peut-être que de Benjamin. Or, selon la parole de Dieu, quand on lit un peu Deutéronome, la Bible nous dit que quand le Seigneur vous emmènera à régner dans le pays qu'il vous aura donné, alléluia, un étranger ne devra pas régner à votre place. Pour nous amener à comprendre que, selon la parole de Dieu, ce n'était pas Esaïe seul qui devait régner. Saül était de la tribu de Benjamin. Or, la royauté appartenait à la tribu de Juda. Quand nous lisons un peu Genèse 49, le Seigneur parle de cela. Il parle un peu de la bénédiction qu'il a accordée à Juda. Il dit, Juda, de toi viendra un roi, de toi viendra le Shiloh. Alléluia. De toi viendra un homme, alléluia, qui va paître le troupeau et la main, sa main sera sur la nuque de ses ennemis. Et de qui on peut en parler? On parlait de Juda, alléluia. Et c'était une prophétie qu'on avait déjà annoncée sur la personne de qui? De Jésus. Et quelques années plus tard, pendant que le peuple venait de se lever, la Bible a amené Esaü, a amené qui? Saül. C'est vrai que Saül devait comprendre, alléluia. Ça y est, souvent, même quand on vous donne une bénédiction, même quand on vous donne une place dans l'église, on vous donne une place chez vous, à la maison, bien dans la ville, dans votre travail, alléluia. C'est à vous de reconnaître si cette place est vraiment peut-être que constituée pour vous. C'est à vous de comprendre, est-ce que Seigneur, cette place, ça ne me fera pas du mal? Samuel, Saül n'a pas compris ça. Saül n'a pas compris que la royauté n'était pas à lui. Parce que quand on lit un peu les Écritures, ça va en Israël. Il y a ce qu'on appelle le livre de la prophétie. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle le livre des prophètes. Le livre des prophètes, c'est quoi? Quand une situation doit se présenter en Israël, on prend les écrits, on fouille, et on dit que ce qui s'est passé a été déjà écrit. Alléluia. Donc, c'est pourquoi même la Bible nous dit quoi? Pendant que Jésus accomplissait les miracles, la Bible nous dit que les miracles qu'il accomplissait étaient déjà conformes à son histoire. Alléluia. On prend quand même la vie d'Abraham. Vous allez voir Abraham. Quand Abraham est mort, Abraham a donné quoi? Un bois. À qui? À Isaac. Alléluia. Il a donné un bois. C'est pourquoi vous allez voir que même un berger marche avec quoi? Avec un bois. Et ce même bois qu'Abraham avait donné à Isaac, c'était comme un héritage. C'était comme un testament. Le testament qu'il avait donné, parce qu'on n'avait pas dans le temps des notaires, des juges qui allaient peut-être écrire pour dire que mon fils aura ceci, il aura cela. Donc le bois qu'il remettait à son fils était un signe d'héritage. Et sur ce bois-là, on écrivait un peu l'histoire d'Israël, l'histoire, c'est-à-dire des patriarches. Amen. Et cet héritage-là, Saül devait quelque part comprendre que, en lisant un peu le livre de la prophétie et le livre des prophètes, la royauté ne devait pas appartenir à ceux de Benjamin. Mais étant donné que son cœur déjà bouillait pour la gloire, parce qu'il y a des gens dans l'église de Dieu qui ont un cœur qui boue de manière prématurée pour les bonnes choses. Or, si tu n'es pas préparé pour les bonnes choses pourront te tuer. Alléluia. Donc je veux ce matin te préparer à entrer dans un nouveau miracle. Tu es d'accord avec moi? Dis amen trois fois. Dis avec moi, Dieu va te bénir ce matin. Dieu va te bénir. J'ai dit à Dieu, emmène-moi des gens capables qui pourront concevoir et avoir une mentalité grande. Quelqu'un qui veut être grand, il ne joue pas dans la boue. Un homme qui va à la rencontre d'un roi n'est pas dans la boue. Quand tu lui parles, ce qui ne m'intéresse pas n'est pas pour moi. Je marche et je dois entendre ce qui peut m'intéresser et ce qui fera du bien à mon âme. Pour être grand d'abord, fais attention à ce que tu entends. Parce que ce que tu entends, tu le reproduis. C'est pourquoi, quand on parle un peu des liens spirituels, les liens spirituels, ce n'est pas simplement un problème de démon, mais c'est ce qui s'est reproduit dans ta famille, avec ton père et ta mère, que tu ne fais que reproduire sur la terre. C'est pourquoi on dit, lui, là, il agit comme son père. Il agit comme son père, pas parce que son père lui a dit, fais ceci, mais il agit comme son père parce qu'il a dû entendre ce que son père disait quand il était jeune. Donc, il ne fait que reproduire l'acte de son père. Donc, fais attention à ce que tu entends, parce que ça peut te détruire. Acclame Jésus pour ça. Alléluia. Donc la Bible nous dit quoi? Pendant que Saül a eu part à la royauté, il a mangé avec Samuel. Et pendant qu'il a mangé avec Samuel, il a cru que Samuel et lui étaient la même chose. Samuel lui a donné la royauté. Samuel a rompu avec une fiole d'huile. Alléluia. Et pendant que Saül, la Bible nous dit quoi? Dieu lui a dit au travers de l'homme de Dieu Samuel, parce que Samuel était un canal par qui le Seigneur passait pour instruire et pour parler à qui? À Israël. Et le Seigneur va dire à Samuel, tu attends ce sacrifice que tu dois faire pour Israël, tu attends jusqu'à ce que moi Samuel je vienne. Mais la Bible nous dit quoi, vous savez, quand tu es déjà impatient dans la gloire, tu es déjà impatient et que tu veux manger de manière prématurée, il y a des signes qui vont te rattraper. Alléluia. Et c'est pourquoi quand on prend un peu la vie de Saül, qu'est-ce qui a fait que Saül a perdu son trône? La Bible nous dit qu'il y avait un sacrifice qui devait être fait en l'honneur du Seigneur de par le canal de qui? De Samuel. Mais Saül a été impatient parce qu'il a vu l'heure. Il a vu que Samuel n'arrivait pas. Il a vu que l'heure passait, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et il a vu le peuple se disperser. Et pendant qu'il a vu le peuple se disperser, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire non, mais l'homme de Dieu n'arrive pas, je m'impatiente. Et puisque le peuple est en train de partir, je ferai de manière prématurée le sacrifice. Alléluia. Et lorsqu'il a offert l'holocauste à Dieu, quelques minutes après, Samuel arrive. Samuel dit, mais pourquoi est-ce que tu as été impatient? En vérité, ça ne devait pas étonner Samuel. L'impatience de Saül ne devait pas étonner Samuel. Parce que Saül, en tant que tel, était un homme qui était déjà impatient dans ses actions. Dans son désir de voir Dieu le bénir, il était déjà impatient. Donc, son impatience a amené Saül à lui dire, puisque tu as été impatient, ce trône-là ne t'appartiendra. Et Samuel va lui dire, puisque tu as été impatient, ton trône, ce trône-là ne t'appartiendra plus. Alléluia. Le trône ne t'appartiendra plus. Et pendant qu'il a dit que le trône ne lui appartiendra plus, Saül s'est prosterné devant Saül. Il a dit, ne me fais pas ça. Et il est allé jusqu'à toucher même le vêtement de Samuel. Et le vêtement de Samuel s'est déchiré en deux. Et Samuel vous l'a dit, lui a dit, c'est de la sorte que ton trône sera déchiré en deux. Alléluia. Pour nous dire que le prophétique aussi, c'est aussi un caractère, c'est un langage, c'est un comportement, c'est une manière de penser. On verra ça plus tard. Et pendant que le trône de Saül a été déchiré en deux, c'est-à-dire que pendant qu'il a perdu la royauté, la Bible nous dit quoi? Le Seigneur s'est révélé à Samuel pour lui dire, parce que l'homme de Dieu Samuel, vous savez, j'ai dit la dernière fois que même quand vous êtes homme de Dieu, chrétien, et que Dieu vous donne de la vengeance, ou bien Dieu et se manifeste dans votre vie comme étant quelqu'un de glorieux, de puissant, vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur, toi ne te glorifie pas. Alléluia. Même quand ton frère a tort vis-à-vis de toi, et que Dieu te donne de l'autorité sur lui, ne te glorifie pas de ce que Dieu t'a élevé sur ton frère. Alléluia. Parce que de la même manière que toi tu condamneras, Dieu aussi va te condamner de la sorte. C'est pourquoi la Bible nous dit quoi? Pendant que le Seigneur s'est révélé à Saül, et que le trône de Saül a été déchiré, Samuel, malgré ceci, c'est lui qui a prophétisé, n'est-ce pas? Qui a dit à Samuel, ton trône ne t'appartiendra plus. Il finit de prophétiser et il reprend encore dans la présence de Dieu pleurer, disant, Seigneur, je t'en prie, n'abandonne pas Saül. Dieu va lui dire, mais qu'est-ce qui se passe, Samuel? Arrête de pleurer devant cet homme-là. Je t'emmène maintenant dans une autre famille, dans la famille de qui? De Isaïe. Et c'est là-bas que moi, Dieu, je me suis choisi un roi. Donc Samuel part dans la famille d'Isaïe. Il voit Elishama, Eliab, plusieurs enfants de l'un d'Isaïe. Alléluia. Et pendant qu'il les voit, il prend le premier. Dieu lui dit non, c'est pas lui. Le deuxième, Dieu dit non, c'est pas lui. Le troisième, Dieu dit non, c'est pas lui. Il dit quoi? N'y a-t-il pas encore un autre fils que toi, Isaïe, tu as? Isaïe dit, j'ai un autre enfant, mais qui est là-bas dans la brousse. Il est en train de paître les brebis. Vous savez pourquoi David, depuis son âge jeune, était déjà en train de paître les brebis? Parce que David est né d'une relation hors mariage. Donc, vous savez, même dans les familles africaines, même dans les familles européennes, ça se passe. Quand on voit un enfant qui n'est pas né d'une relation hors, qui est né d'une relation hors mariage, qui n'est pas né dans une relation normale, vous allez voir que les fils de la mère, qui vit dans le mariage vraiment légitime, ils vont prendre cet enfant qui est né hors mariage et ils vont le mettre à l'écart. C'est lui qui va s'occuper de laver les assiettes, de peut-être que d'essuyer, pas encore la marmite, de peut-être que se lever, aller faire les courses. Donc c'était un peu le problème de rien de David. Il était né hors mariage, donc on prenait David et on le mettait dans la brousse. C'est lui qui s'occupait des déchets de moutons. Alléluia. Il s'occupait des déchets de moutons, mais je t'assure, même quand tu es marginalisé dans ta vie, Dieu a toujours un programme pour toi. Dis amen. Alléluia. Donc David était marginalisé du fait qu'il soit un enfant né hors mariage. Mais Samuel va dire, n'y a-t-il pas un autre fils? Ça va choquer un peu Isaïe. Isaïe va dire non, mais la parole de Dieu déclare que non, Dieu ne traite pas avec un enfant qui est né hors mariage. Mais comment se fait-il que toi tu ne choisis pas ceux qui sont en face de toi, qui ont le potentiel pour être bénis, qui sont nés dans le mariage, et tu pars me parler d'un autre qui est né hors mariage? Dieu va dire non, tes pensées ne sont pas mes pensées. Aussi longtemps que le ciel est éloigné de la terre, les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut selon son bon vouloir. Et c'est ainsi qu'il va aller maintenant dans la maison, c'est-à-dire dans la brousse. Ils vont dire, allez m'appeler ce petit Saïn, ce petit David. Et David va arriver avec ses vêtements sur lesquels il y avait plusieurs déchets. Il arrive maintenant à se présenter devant Samuel. Samuel va dire, c'est celui-là que Dieu a choisi. Et comment est-ce qu'il va oindre David? Il va prendre une corne d'huile. Il met de l'huile et l'huile va couler sur David. Donc c'est là que David va le recevoir l'onction. Donc il y a eu deux manières de les consacrer. David a reçu l'onction de par la corne et Samuel a reçu l'onction de par une fiole d'huile. La corne qui signifie l'auto. Dieu nous fera du bien. On dirait on ne me suit pas ce matin. Fais ça, Seigneur, parle à mon cœur. Alléluia. Donc Dieu parle à David. David a reçu l'onction. Il a reçu l'onction de Paracon. Il a l'autorité sur lui. Et quand il a reçu l'onction, Dieu lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es roi. À partir d'aujourd'hui, je te donne Israël. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas paître mon peuple. À partir d'aujourd'hui, c'est toi que je choisis. Et pendant que Dieu lui parlait, ce qui est bizarre, il y avait encore un autre roi qui était en face de lui. Parce que quand Dieu a dit à Samuel, à Saül, Saül, ton règne est fini. Ça n'a pas été en même temps la mort de Saül. Alléluia. J'ouvre une parenthèse. Il y a des hommes de Dieu qui servent Dieu. Quand bien même le temps est fini, on les laisse servir le Seigneur. Dieu va dire à Saül, ton temps est fini. Et Dieu dit, pendant que ton temps est fini, le Seigneur se choisit une autre génération, à l'instar de qui? De David. Mais pendant que Dieu choisit David, David en face de lui, un roi qui est Saül. Saül est toujours roi. Alléluia. Roi parce qu'il a l'autorité du peuple, parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir à un roi. Alléluia. Et pendant que David avait sur sa tête l'onction royale, ça veut dire qu'il y a un qui a reçu l'approbation de Dieu et l'autre a reçu l'approbation du peuple. Mais ça n'a pas empêché David de marcher dans l'humilité. Alléluia. Donc la première clé d'abord, c'est-à-dire pouvoir posséder et pour avoir la clé de David, c'est d'abord l'humilité de cœur. Alléluia. Quand tu veux aller loin dans la vie, faut apprendre à être humble. Faut apprendre d'abord à respecter les pères. Même quand Dieu t'a dit c'est ton temps, c'est à toi de reconnaître que même quand Dieu t'a parlé, il y a des principes qu'il faut d'abord respecter. Alléluia. Donc pendant que David a reçu l'onction, Saül est en face de lui. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? David était toujours en train, imaginez un peu, on dit tu es le père, tu es le roi, ou bien tu es le président Sarkozy. Dieu t'a donné l'onction pour être le président de la France. Et puis tu es toujours en train de t'occuper des moutons. Tu prends un chiffon en train de nettoyer. Puis tu es là, partout on marche, voici le roi. C'est comme nous aujourd'hui dans l'église, on marche avec des prophéties, des gens se moquent, des gens parlent. Mais la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance pour ceux qui croient. Alléluia. Donc David a l'onction sur sa tête et il est dans la brousse. Ses frères disent, Dieu n'a pas dit tu es roi, mais tu fous quoi encore dans la brousse? David dit non, mon temps arrive. Dis avec moi, mon temps arrive. Tu as certainement entendu une prophétie sur ta vie, mais dis à ton ami, ton temps arrive, ça va s'accomplir. Alléluia. Je dis, le temps arrive où ça va s'accomplir. Un homme de vision crée des hommes de vision. Sois un homme de vision. Si vous pouvez ouvrir mon cœur pour voir ce qui est dedans pour vous, peut-être qu'il y a longtemps, tu allais sauter. Je dis, ton temps arrive. Et pendant que Dieu a parlé comme ça, c'est-à-dire à David, David était toujours en train de nettoyer des déchets. Il nettoyait des déchets. Et ses frères se mettaient à rire. Et je vous assure, imaginez que quand vous avez une prophétie, quand Dieu vous a parlé concernant vos projets, votre mariage, et que vous ne voyez pas des choses à s'accomplir de manière palpable et concrète à vos yeux, vous allez voir que ceux avec qui vous marchez vont dire, toi, Dieu te parle trop. Dieu t'a longtemps dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la parole de Dieu s'accomplir? Non, ce que je vois n'est pas ce que Dieu va faire. Alléluia. Parce que je ne vois pas avec les yeux charnels, mais je vois avec les yeux spirituels. Si je dois voir avec les yeux charnels, je vais me décourager. Mais je ne verrai jamais avec les yeux charnels. Je vais voir avec les yeux de Dieu. Alléluia. Avoir les yeux de Dieu, c'est de ne pas croire au physique, mais c'est de croire à l'invisible. Je vous assure, quand moi je vous vois, certainement que je dis, Seigneur, c'est compliqué que Dieu me donne Toulouse, mais je ne regarde pas aux yeux physiques. Quand je vous vois, je crois que de par vous, des hommes importants peuvent sortir d'ici de la ville de Toulouse et que Dieu peut faire de nous une église de poigne, une église de pointe pour restaurer les fondements de la ville de Toulouse. Je ne regarde pas ce que je regarde présentement, mais j'ai des yeux invisibles. Et c'est les yeux invisibles qui t'amènent d'avoir la foi. Et même la foi, c'est la ferme assurance des choses que toi, tu espères. Toi, mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas la chose, mais tu as la ferme assurance de ce miracle que Dieu te promet. Tu ne vois pas. C'est vrai qu'on te dit des choses. Présentement, ne vois pas la chose. C'est normal que tu ne voyes pas. Mais faut croire que ton temps va arriver où tu vas toucher ce miracle, où tu vas marcher avec ce miracle, où tu vas palper de manière concrète ce miracle. C'est pourquoi, dis à ton ami, aie les yeux spirituels. Dis, aie les yeux spirituels. Alléluia. Tout dépend de ta manière de voir les choses. Et pendant que David avait la prophétie, alléluia, pendant que David avait la prophétie, on a parlé de la dernière fois du respect à l'autorité. Mais on va passer à la deuxième étape aujourd'hui. Dieu parle à David, tu es roi d'Israël. Mais imaginez un peu, pendant que Dieu parle à David, il y avait un temps, la parole ne s'était pas encore accomplie. Je vous assure, comment s'accomplit la prophétie de Dieu? Quand vous recevez une parole de Dieu, le Seigneur cherche un terrain de manifestation pour voir comment est-ce que la prophétie va s'accomplir. Quand Dieu vous a dit quand vous serez femme d'affaires, homme puissant, vous avez la prophétie sur votre vie. Mais la prophétie est en train de chercher un terrain de manifestation. La prophétie t'emmène dans une situation, elle t'emmène dans une ville pour pouvoir s'accomplir. La prophétie cherche un terrain pour pouvoir s'accomplir. Parce que la prophétie, c'est quoi? Tu ne dépends plus de toi-même. C'est pourquoi, quand Joseph a reçu la prophétie l'a conduit dans un puits. Mais à cause de la prophétie était comme un manteau sur sa vie. On veut le tuer, mais il ne meurt pas. Parce qu'il est sous la prophétie. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Je vais t'expliquer un truc. Quand tu as la prophétie sur ta vie et que Dieu t'a parlé, le prophétique dans ta vie est en train de chercher un terrain. Est en train de chercher un terrain de manifestation. Dieu lui-même réfléchit en lui-même. Parce que quand Dieu te dit, je vais t'élever, le comment, toi, ne t'appartient pas, mais il appartient à Dieu. Donc Dieu est en train de chercher le terrain. Il cherche le comment de l'accomplissement. Donc, pendant qu'il cherche le comment, il a emmené maintenant David vers Saül. Parce que, pour rentrer dans la prophétie, il y a ce qu'on appelle l'homme providentiel. Dis à ton ami, c'est mon thème ce matin. L'homme providentiel, c'est lui qui te permettra d'avoir la clé de David. Regardez un peu. L'homme providentiel, c'est qui? Parce que David avait un problème. Il avait une prophétie. Mais il priait, Seigneur, tu m'as parlé. La prophétie va s'accomplir quand? Dieu dit, attends. Donc Dieu a créé une situation de folie dans la vie de qui? De Saül. Alléluia. Et pendant que Dieu crée une situation de folie, le petit don que David avait, il savait simplement jouer de la harpe. Imagine un peu, toi, certainement que Dieu t'a parlé, mais le seul don que tu as, c'est savoir chanter. Le seul don que tu as, c'est savoir rouler une voiture. Le seul don que tu as, c'est savoir certainement préparer une nourriture. Le seul petit don que tu as, peut-être que c'est l'amour de ton cœur. Donc la qualité, le don que tu as, faut pas le négliger, parce que ce don peut t'emmener loin, je t'assure. Alléluia. Le potentiel que tu as peut t'emmener loin. Ce que tu as, faut apprendre à l'aiguiser, faut aiguiser ce don-là. C'est pourquoi pendant que Dieu parlait à David, Dieu n'a pas permis à ce que David, tout d'un coup, soit roi en Israël. Mais Dieu a permis à ce que David attende. Il nettoyait toujours les moutons, il s'occupait, il prenait soin de tuer le lion, de tuer l'ours. Oh, Dieu est en train de le préparer à tuer les Philistins pendant qu'il tue un lion. Pendant qu'il tue l'ours, il se voit en train de tuer un Philistin. Pendant qu'il tue le lion, il se voit en train de tuer Goliath. Donc Dieu le préparait un peu. Et le don qu'il avait, savoir jouer de la harpe, Dieu est en train de guiser ce don dans le secret. Et le temps arrive où l'esprit de folie descend sur Saül. Et Saül va dire, n'y a-t-il pas quelqu'un dans la ville qui sait jouer de la harpe? Et c'est ainsi qu'ils sont allés chercher David. Et David est venu avec le don. Alléluia. Il est venu avec l'instrument en train de jouer. Pam, pam, il jouait. Et Saül se disait que voilà l'enfant qui va me faire sortir de ma maladie. Oh, David dit non, voilà celui qui va te détrôner. Alléluia. Mais David n'a pas dit. Pendant que David s'approchait de lui, Saül voyait lui la solution à son mal. Oh, David dit non, c'est la solution à ton mal. M'intéresse cette solution, c'est que ton trône m'intéresse. Mais David ne l'a pas dit. Alléluia. Je vous assure que Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Mais prenez un peu la vie de Moïse. Moïse était tout petit, ils l'ont jeté dans de l'eau. Alléluia. C'est pourquoi on dit sauver des eaux. Et Myriam, la fille de Pharaon, est allée le prendre. Quand ils l'ont mis dans la maison et que Pharaon lui donnait de la nourriture, je vous assure que Pharaon ne savait pas que c'est celui qui nourrissait là, qui allait le détruire un matin. C'est pas là où tu es. Je dis, Toulouse est à toi. Tout est une question de montagne. Tiens-toi debout, dis Seigneur, élève-moi, fais ça, Seigneur, élève-moi. Faut croire. Pendant que tu le fais, Seigneur, élève-moi. Faut croire. Alléluia. Qui croit que Dieu va l'élever? Dis avec mon Seigneur, ce matin, je soumets mon esprit à ta volonté. Je ne serai plus la même personne. Au sorti de ce lieu, j'aurai mon nom providentiel. Une situation providentielle. Afin que je règne. Aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus, acclame le Seigneur. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Et David, pendant que ça s'est passé, l'esprit de folie est allé sur Saül. Et quand on a amené David jouer de la harpe, David jouait de la harpe. Et pendant qu'il jouait de la harpe, l'esprit mauvais sortait de la vie de Saül. Je vous assure, je vais ouvrir votre esprit. Souvent, vous voyez des gens du dehors qui vous combattent. Alléluia. Et pendant qu'ils vous combattent, qu'ils vous font du mal, souvent il y a des situations que Dieu provoque dans leur vie pour vous élever. Mais quand ça arrive, vous allez chercher la face de Dieu. Alléluia. Je vous assure, amen. C'était même le cas de qui? De Pharaon. Pharaon a eu quoi? Il a eu un cauchemar. Alléluia. Parce que quelqu'un qui dort et puis qui voit des brebis chétives. Alléluia. et des vaches maigres, quelqu'un qui voit. Imagine un peu, tu en es de dormir, puis tu vois des brebis avec des os bizarres. Ça, c'est pas un songe, c'est un cauchemar. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, dans ton songe, alléluia, le cauchemar fait peur. Imagine un peu, tu dors, et puis tu vois un singe qui est en train de te poursuivre. Tu as dit, Seigneur, ça, c'est un cauchemar. Alléluia. Donc souvent, Dieu même est dans le cauchemar. Dieu provoque le cauchemar. Il amène le cauchemar vis-à-vis de nos ennemis pour que nous, on puisse être un sujet d'élévation. Alléluia. Donc Dieu a amené ce cauchemar dans la vie de qui? De Saül. Saül a eu un problème spirituel. Et son problème spirituel fait que la seule personne qui peut résoudre son problème, c'est David. On amène David avec le seul don. David joue de la harpe. L'esprit libère Saül. Alléluia. Et pendant que l'esprit a libéré Saül, ça s'est passé ainsi. Samuel et David étaient toujours là. Et David se posait les questions toujours. Il travaillait simplement dans la maison du roi. Et Saül va lui poser la question. Mais toi, si c'est de par toi que j'ai été guéri, je te pose la question à savoir, mais tu es fils de qui? David va dire, ah bon, parce que moi je t'ai guéri, tu me demandes aujourd'hui, je suis fils de qui? Alléluia. Donc ils sont allés même faire des études dans la famille même de David pour savoir il est fils de qui, enfant de qui. Je vous assure, tant que Dieu ne t'élève pas, on ne saura jamais tu viens de qui. C'est quand Dieu ferait un miracle dans ta vie qu'on se posera des questions sur ta famille. Elle est enfant de qui? Ils vont faire des études sur ta famille. Ils se poseront des questions à savoir celle-là d'où elle vient. Lui là il vient d'où? Mais quel est le don qu'il a? Parce que tu as quelque chose de palpable. Ça va faire que tu vas entraîner ta famille dans le miracle. À cause de ce que toi tu as, tu vas entraîner ton père dans la bénédiction, ta mère dans la bénédiction. Il y a des choses que la Bible ne dit pas. La Bible me dit dans le livre de Jean 21, si on devait tout dire de la vie de Christ, si on devait dire tout ce que Jésus-Christ de Nazareth avait accompli, je vous assure, la Bible même n'allait même pas contenir ses écrits. Donc pour nous amener à comprendre que lorsque David a opéré ce miracle-là dans la vie de Saül, c'est tellement que Saül s'est levé. Il a changé la maison de David. Il a dû payer les factures dans la maison du père de David. Il a dû apporter la nourriture. Alléluia. Mais la Bible ne dit pas tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que David était toujours dans le secret, en train de prier, en train de jeûner, quelques temps plus tard, la Bible nous dit quoi dans le livre de 1 Samuel 17? Voilà l'homme providentiel que Dieu va susciter. Cet homme providentiel-là, c'était qui? Goliath. Donc, pour qu'il puisse être élevé, le Seigneur a cherché un terrain de manifestation et la prophétie est allée choisir qui? Goliath. Vous savez, souvent la prophétie vient choisir ton ennemi pour t'élever. Donc, je suis ce matin là pour te dire que la prophétie va choisir ton ennemi pour toi t'élever. N'ayez pas peur des adversités. N'ayez pas peur des calomnies. N'ayez pas peur du rejet. N'ayez pas peur de l'abandon. Un homme qui veut être vainqueur, quelqu'un qui est vainqueur, c'est celui qui a déjà appris de grandes choses dans le secret. Alléluia. Un vainqueur, c'est celui qui n'a pas peur de l'adversité. Un vainqueur, c'est celui qui ne tremble pas devant les situations difficiles. Parce que même quand tu es vainqueur, Dieu va te présenter des douleurs, des difficultés, le rejet, l'abandon. Mais c'est à toi de transformer ces situations dans ton bien. C'est pourquoi je vous assure, ce matin, si tu veux posséder la clé de David, la deuxième étape, c'est que tu as besoin d'un ennemi dans ta vie. Tu as besoin d'un ennemi. Quand on parle d'ennemi, tu as besoin d'un ennemi dans ta vie. Regardez un peu. Pour que David puisse être élevé, David était dans le secret. Mais le Seigneur a cherché. Mais la parole va s'accomplir comment? Et la parole s'en va choisir Goliath. Le mot Goliath veut dire splendeur. Et regardez un peu. Pourquoi Dieu parle de la splendeur du nom de Goliath? Parce que la Bible parle de la splendeur pour dire que l'ennemi, mais le problème qui va se présenter à toi, c'est bien un petit problème. C'est un problème qui a de la splendeur. Ils ont déjà peur. Pourquoi ton problème aura de la splendeur? Ton problème aura de la splendeur parce que partout dans la ville, les gens seront témoins de ce problème. Prenez un peu le cas de Goliath. La Bible nous dit quoi? Goliath, pendant qu'il marchait dans la ville, tout le monde savait que Goliath était là. Donc tout le monde était au courant de ce problème. Et souvent, quand tu viens un problème, tu dis, Seigneur, mon problème, je ne veux pas que les gens sachent. Souvent, Dieu lui-même mandate des gens pour aller parler. Et si ton problème est connu de tous, c'est que tu as une gloire qui sera connue de tous, frère. Tout dépend de votre manière de comprendre les choses. Et pendant que Goliath était en train de marcher, imaginez un homme, Goliath, la Bible nous dit quoi? Il portait au moins 1000 cycles de cuirasse sur lui. Entendez par ça, la cuirasse, c'était comme de l'airain, il avait comme du fer sur lui. Il avait le fer ici, sur lui, de l'airain ici, sur sa jambe, sur ses mains, alléluia. On ne voyait même pas son corps. Et pendant qu'il était en train de marcher, il faisait plus de 2 mètres en train de marcher devant un enfant David qui a 13 ans. Il avait pas ça. pas une question d'argent, mais c'est une question de temps et de circonstances. C'est une question de temps. On est tellement dans la ville rose qu'on veut des choses qui sont simples. Manger le matin, dormir, se lever à aller au travail. Tu vas au McDo avec tes enfants, une vie paisible. Non, ta vie ne doit pas être paisible. Ta vie doit être mouvementée pour recevoir Dieu. Dieu doit mener un mouvement dans ta vie qui va te réveiller. Je vous assure, la Bible dit qu'Élie était de la même nature que nous. Pourquoi eux et pourquoi pas toi? Pourquoi des gens qui réussissent? Alléluia. Regardez un peu, j'écoutais une information une fois. Et puis, ça dit comment dirais-je, une information qui disait que même le gouvernement français, ils font des prévisions si 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme de bien laisse des héritages et laisse un héritage aux enfants de ses enfants. C'est-à-dire tes petits-enfants, mais tu laisses un héritage. Mais nous, aujourd'hui, là, on préfère nous manger, grossir, nous habiller. Souvent, l'enfant, même mon ami, mon ami, s'oublie. On ne pense même pas à ça. On ne pense pas aux prévisions. Or, vous pensez à des prévisions, c'est que Dieu doit t'amener une situation vraiment difficile qui va mouvoir ta vie. Il doit t'amener aussi à amener ta famille, ta génération à régner avec toi. Tout dépend du miracle que tu veux. Si tu veux un miracle simplement d'une petite maison, parce que avoir maison, mais ce n'est pas bénédiction. Quand on lit un peu la parole de Dieu, là, quand je vois les gens qui disent, prophète, non, maison, tu t'as dit que tu n'as rien compris de la bénédiction. La bénédiction, lisez un peu, lisez un peu. Quand on dit tu es béni, là, tu es propriétaire des terres, la terre est à toi. Dis le lieu d'où l'ours nous dans le terre, la prêche, je te donne ce lieu-là. Il n'a pas dit tu vas aller louer ce lieu-là. Nous, on est locataire. Pour soulever ta jalousie, tu dis, il s'habille bien, il est béni, tu n'as rien compris. Si tu conçois ça comme bénédiction et que tu vas prier, Dieu va te donner les mêmes vêtements et tu vas rester comme ça, lui va avancer. Dis à ton ami, je refuse. Dis, Dieu, élève-moi. Vous ne croyez pas que Dieu peut vous donner des terres ici à tous. Eh, Seigneur. Maintenant, la Bible qu'on lit là, c'est pas la même Bible d'Abraham. Vous ne croyez pas que Dieu peut nous élever. Je vous assure qu'en un clin d'œil, Dieu peut peut-être susciter des ennemis qui viennent se prosterner. On reconnaît qu'on a fait des erreurs, pardonne-nous. Et puis, restitue ce commandement qui t'appartient. Croyez que tout est possible. Parce que ce que tu vois, tu l'enfantes. Ce que tu vois, tu l'enfantes. Dis à ton ami là où tu es là, dis à ton ami à côté de toi. Tu es condamné à réussir. Tu seras rassasié de tes jours. Alléluia. Et pendant que Dieu parle ici, c'est-à-dire à David, David se présente devant maintenant qui? Goliath. La Bible dit quand Goliath est arrivé, le nom Goliath, allons dans Samuel. Vous allez voir. Comme tellement qu'il avait la splendeur Goliath. 1 Samuel 17. À partir du verset 7, David, allons rapidement. 1 Samuel 17. On va voir quelque chose. 1 Samuel 17, à partir du verset 11. Mais va au verset 7 d'abord.
1 Samuel 17, verset 7.
Oui. Allons-y.
Nous lisons.
Oui.
Le bois de Salan, c'était comme une ensouple de tisserand.
La Bible dit quoi? Le bois de Salan, c'était quoi?
Une ensouple de tisserand.
Monte un peu, va au verset 6, on va très bien comprendre.
Il avait aux jambes une armure d'airain.
Monte un peu encore.
Sur sa tête était un casque d'airain.
Écoutez-moi, quelqu'un, vous là, comme nous, on porte les casquettes là. C'est souvent sans tissu. Oh, pour Goliath là, c'est un fait. Ça veut dire déjà que sa tête pèse. Vous êtes d'accord avec moi? Dis avec moi numéro 1. Oui.
Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain.
5000 cycles d'airain, ça dit comment c'était dans le temps, comment dirais-je, la mesure par laquelle on pouvait mesurer. Quand on, ça dit c'est plusieurs kilos. Ça dit, vous voyez un peu le poisson dans les écailles. Hein? Et lui, il avait mis sa suce autour de lui. Père, la dimension c'était combien?
5000 cycles d'airain.
5000 cycles d'airain, c'est-à-dire qu'il avait mis tout ça sur lui. Ça veut dire déjà même là, ça veut dire lui-même il pèse. Deux.
Il avait aux jambes une armure d'airain.
Tu sais pourquoi il pèse, David? Tout à l'heure même, là, je donne mon costume à quelqu'un qui a peut-être qui fait du 42. Il va dire, mais c'est un peu lourd. Imagine un peu Goliath. Vas-y.
Et un javelot d'airain entre les épaules.
Il avait mis aussi de l'airain sur ses pieds, autour de son corps, et il avait un javelot. Ça veut dire qu'on ne voyait même pas sa poitrine. Donc imaginez-vous, selon vous, David allait passer pour le tuer. Mais quand il y a ton problème, il n'y a pas d'issue. Tu cherches ici à gauche, papa n'est pas là. Tu cherches à droite, maman n'est pas là. Tu, Seigneur, y aller où? Je vais aller où? Il y a une solution. L'Éternel.
Amen, amen.
Continue, David.
Le bois de Salan, c'était comme une ensouple de tisserand.
La Bible dit le bois de Salan, c'était comme une ensouple de tisserand. Vous voyez un peu le tisserand. Alléluia. Javelot. Nous souvent marcher à épée. Au nom de Jésus. Lui, c'est pour le nom de Jésus. Lui, il a javelot. Continue. 4.
Et la lance pesait 600 cycles de fer.
Et la lance pesait 600 cycles de fer. Ça veut dire que David ne peut pas soulever ça. Parce qu'il avait 13 ans. Et quand on me tirait à ton ennemi, dit, lui, il entend normal là. Je le regarde, mais il fait peur. Le problème qui vient là, non, Seigneur, c'est mieux. J'allais me cacher dans une ville là-bas. J'ai laissé ce problème là. Certains disent, je ne vais pas vite mourir. Donc ça fait que certains fuient des situations. Dis à ton ami, ne fuis pas. Dieu est avec toi.
Amen.
Continue, oui.
Celui qui portait son bouclier marchait devant lui.
C'est ce que j'avais dit là. Viens. Il vient. C'est-à-dire, imaginez un peu. Goliath est en train de marcher, puis le bouclier, là, tellement qu'il est rempli d'ornements de fer. Quelqu'un, le bouclier, c'est quoi? Et puis, celui qui a sa gloire, puis Goliath est derrière. Puis il marche comme ça. Ça veut dire, en temps normal, là, David pense qu'il n'y a pas d'ouverture. Avant d'atteindre Goliath, il a d'abord le bouclier, et puis il a quelqu'un quoi, qui est rempli de force. Seigneur, l'ouverture est où? Dieu a une ouverture. Acclame
amen,
Jésus.
Amen.
Alléluia. Oui.
Le Philistin s'arrêta.
Oui.
Et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria...
Amen. Donc la Bible dit, qu'asseyez-vous, il s'est arrêté et puis s'est adressé à qui? Aux troupes d'Israël. Un seul homme qui s'adresse à tout le monde. Imaginez un peu, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu.
Amen.
Imaginez, vous avez un problème qui a fait fuir tous les habitants de Toulouse. Mais devant vous, ce problème-là ne tiendra pas au nom de Jésus. Tout dépend du Dieu que vous avez, de votre mentalité. Alléluia. Donc David, c'est comme ça, quand on prend un peu le nom de Goliath, le nom de Goliath veut dire splendeur. C'est pas en vain. Et quand tu le vois, son il dit, il y a une splendeur. Quand tu le vois, il est tellement grand dans sa forme. Tu le vois, il est tellement grand dans son expression. Tu le vois, il est tellement grand avec ses armes. Tu vois ton problème est tellement grand. Ou tu n'as même pas, mais peut-être que 500 euros par mois. Ton problème est tellement grand. Ou peut-être que tu te dis, il y a 40 ans, 60 ans, je ne suis pas encore marié. Ton problème est tellement grand, jusqu'à ce que tu ne peux même pas payer tes factures. Ton problème est tellement grand que tu n'as personne à Toulouse. Ton problème est tellement grand qu'on veut t'expulser même de salir peut-être que de ta maison. Ton problème est tellement grand qu'on t'a renvoyé. Oui, c'est vrai. Tout le monde le sait. Mais Dieu a un autre mot sur ta situation. Alléluia. Et pendant que David a entendu cela, la Bible nous dit quoi? Il est venu jusqu'à 40 jours. Imaginez, tu es à la maison, puis à 5h du matin, Lucien vient. Sors de la maison, premier jour. Il vient deuxième jour. Sors. Au 10e jour, je vais prendre tes fauteuils et ta télévision. Il vient encore au 15e jour. On bloque tes comptes. Il revient encore. Bon, on a analysé tout et tout. On va bloquer même ton... Ça dit comme on va te ficher même à la Banque de France. Et puis il dit, bon, dans 5 jours, on arrive à ramasser tout ce que tu as chez toi à la maison. Il a jusqu'à 40 jours. Goliath défiait Israël. Imaginez un peu. Un jour, deux jours, 40 jours. 40 jours d'oppression. Vous n'avez jamais vécu la douleur. Imaginez que tu vois un homme comme ça devant ta porte de 40 jours. C'est-à-dire, quand on est dans une maison, un mois de loyer déjà, c'est trop. Et puis quelqu'un qui l'a dit jusqu'à 40 jours. Il dit, tu sors, je suis là. Ça veut dire que tout Israël avait peur. Et Saül, même si le grand roi Saül, il était caché chez lui à la maison, et puis il laissait Saül seulement parler. Donc Saül avait déjà de l'avantage. Parce que je vous assure, même dans le monde là, quand tu es en face de quelqu'un que vous devez vous battre, quand il... Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas faire parler, leur bouche. Si tu as devancé, il t'a dit, non, je vais te taper. Là, en même temps, là, tu as la peur, en même temps, t'envahis, tu ne peux plus réagir. C'est pourquoi dans la bagarre, souvent, il faut réagir toi le premier. Acclamez Dieu. Alléluia. Quand tu réagis le premier, ça fait que ton adversaire affaiblit. S'il a pu faire ça, c'est qu'il y a un autre coup qu'il va donner. Or, eux, ils ont laissé Goliath réagir. Donc, ça les a affaiblis. Or, quand on prend un peu, El Shammah. Regarde le nom qu'il a même. El Shammah. Le frère de David. Quand on a entendu, même son nom, El Shammah, n'a pas eu d'influence sur Goliath. Même le grand Saül, son nom n'a pas eu d'influence sur qui? Goliath. Mais les trois frères de David qui étaient armés au combat n'ont pas eu, même quand ils ont entendu la voix de Goliath, ils ont eu peur. Et la Bible nous dit quoi? David, lui, il avait la prophétie sur sa tête. Vous savez, quand vous devez être béni, vous êtes toujours caché dans le secret. Et la Bible dit quoi? Que son père a dit, David, lève-toi et va donner de la nourriture à tes frères. Va donner de la nourriture à tes frères, ils sont au front dans le combat.
Vous savez, souvent, ce n'est pas tout on vous dit. On vous met souvent devant le fait accompli. Il y a des gens dans des familles qu'on ne considère pas. Quand il y a une situation où on ne t'appelle pas, on doit faire quelque chose où on ne t'appelle pas parce que tu n'es pas influent. Qui a déjà vécu ça? David, va, 1 Samuel 17, va. Va, on va comprendre ensemble. 1 Samuel 17 à partir du verset 19.
Verset 19.
Oui.
Ils sont avec Saül.
17.
Isaïe dit à David, son fils.
Isaïe dit à David, son fils, oui.
Prends pour tes frères cet épha de grain rôti et ses 10 pains.
Donc David s'est dit, pendant que ses frères sont au combat, lui, on envoie donner de la nourriture. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Quand tu es né au marais, on appelle quoi? Va chez le boutiquier. Va remplir la bobole de gaz. Va peut-être que laver la voiture. Et puis les enfants de la maman légitime, là, sont en maison. En train de bien manger, ils sont à l'aise. Et toi, plus que tu es déjà négligé depuis le ventre de ta mère, là. C'est-à-dire, quand le père a vu le ventre, il dit, elle n'a qu'à faire avortement même. Mais Dieu n'a fait, tu n'es pas tombé, tu es venu. Et si tu es venu, c'est que Dieu a un programme pour toi.
Amen, amen.
Parce qu'il y a des enfants là qui tombent pas comme ça. Qui c'est ça? Amen, mon amen. Ami, oh. Il y a des situations où on a vécu, hein. Acclamez Dieu. Amen, acclamez amen. Dieu. Alléluia. Donc Dieu a fait, l'enfant est venu. Et malgré que l'enfant est venu, au lieu de le respecter, on l'envoie. Prends la nourriture, va donner à tes frères. Et puis, c'est ce qui m'a choqué. David continue.
Et cours au camp vers tes frères.
Oui.
Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers.
Oui.
Tu verras si tes frères se portent bien.
Oui.
Et tu m'en donneras des nouvelles sûres.
Oui.
Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébins.
Amen. Ils sont où ça?
Avec Saül.
Là, c'est une information que qui Isaïe a donnée à David. Ça veut dire que David lui-même ne savait même pas où ses propres frères étaient. Ça veut dire que souvent, il y a des situations où on ne te tient pas informé. Il y a une situation qui arrive, tu es tellement négligé, tu es tellement abandonné qu'on dit toi là. Mets-toi de côté. C'est qu'une situation arrive, on dit, oui, on voulait te dire ça, mais voilà ce qui s'est passé hier. Tout ça. Et puis tu dis, ah, mais dites-moi au moins, on va te dire, tu as fait quoi? Si tu ne peux pas réagir financièrement, tais-toi. Tu ne peux pas prier pour nous, tais-toi. Donc ça fait qu'à tous les niveaux, on te dit, tais-toi. Donc tu es obligé de marcher dans le silence. C'est quoi, je vous assure, un enfant hors mariage, il est toujours calme, silencieux, ce n'est pas de sa faute. On ne lui donne pas un mot pour dire. Donc il est obligé de se taire. Donc, pendant que Saül lui a dit, ils sont, c'est-à-dire, ils sont près de qui? De Saül. Donc, il a reçu l'information. Il dit, je suis quand même méprisé qu'à ce point-là. Un d'un moment, on voit d'aller donner la nourriture. C'est maintenant que j'apprends que mes frères sont allés combattre. Je vais aller donner la nourriture. Et il prend la nourriture, il va donner à ses frères. Et pendant qu'il arrive sur le champ de bataille, il voit encore Goliath qui arrive. Qui est le Dieu d'Israël? Je vous défie, je vais tuer tout le monde. Qui peut se présenter à moi? Et puis, tout le monde a peur, ses propres frères. Même l'ennemi Eliade, il a peur, il se cache. Et puis David a dit, mais qui, si on tue cet homme-là, celui qui le tue aura quoi? Dis avec moi, voilà, c'est là la bénédiction de David va commencer. C'est-à-dire, quand tu sais que Dieu est avec toi là, tu es partant pour les grands défis. Tant que Dieu est avec toi, la Bible dit, avec Dieu, je ferai des
exploits.
Exploit, ce n'est pas victoire, c'est au-delà de la victoire. Et quand David a dit, avec Dieu, je ferai des... Il écrasera mes ennemis, ce verset, il voulait parler de qui? Dis avec moi, Goliath.
Goliath, amen. Amen.
Il dit, avec Dieu, je ferai des... Il écrasera mes ennemis. Donc, pendant que David parlait, il dit, cet homme-là, si on le tue, on aura quoi? Puis ils ont commencé à donner, bon, ton compte en banque sera rempli, tu ne seras plus à découvert, on va te donner une place à la mairie de Toulouse. Et puis, il analyse. Et puis, dans son esprit, David est en train de se voir à Toulouse. Il se voit dans son pavillon à Toulouse. Il a conçu la pensée. Il dit, allez dire à Saül que lui, là, moi, je peux le tuer. Et son frère Eliade qui est à côté dit, qui dit son aîné, il dit, mais toi, je connais ton orgueil. Tais-toi! Et puis, il a dit, je connais ton orgueil. Il sait que son petit à la maison parle trop. Il dit, David, tais-toi, qu'est-ce que tu dis? Donc, David dit, ça dit souvent, là, même quand ceux qui ont échoué te donnent des conseils, il faut dire, j'ai compris, laisse les puis va, fuis. Va quelque part. L'aîné s'est mis devant David, il a dit, David, je connais ton orgueil, tais-toi. Quand David écoutait ça, David l'a laissé tout doucement. Il a dit,
parce que toi, tu as échoué. Tu penses que moi aussi, je dois échouer. Ça, c'est ton avenir. C'est ta destinée. David l'a laissé là. Et puis, il dit, j'ai compris. Il allait voir une autre personne. Lui, là, si je le tue, vous allez me donner quoi? Et les mêmes personnes ont répété encore ce que d'autres avaient dit. Il dit, bon, en cachette, allez dire à Saül. Parce que si mes parents entendent ça, ils vont me ramener en brousse pour aller suer les déchets de moutons. S'ils entendent que je veux me battre à Goliath, ils vont m'attacher pour aller, va t'occuper du troupeau. Si les gens entendent, je t'assure. Parce que souvent, quand des gens te voient aller vers ton miracle, ils préfèrent te prendre et puis te ramener en arrière. Non, il y a des choses qu'on ne fait pas devant tout le monde. Donc David est allé parler dans le secret. Et Saül a dit, mais toi tu es un enfant, tu ne peux pas, cet homme-là, tu ne peux pas le tuer. David a dit, je peux. Et Saül va se déshabiller, Saül va donner son ornement à David. Il va dire, bon, je te donne sa porte. David va dire, non, ça là, c'est pour toi. Moi, je ne vais pas aller combattre tes âmes. Alléluia. Amen. Je ne vais pas combattre avec les âmes que tu as. Donc, ça montre quelque part que toute cette situation te montre déjà que David était un homme ordinaire. Mais Saül l'a rendu extraordinaire. Amen. C'est ton ennemi qui va t'aider, toi, à te rendre extraordinaire. C'est des situations de la vie qui vont, toi, t'aider à te rendre extraordinaire. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce que tu vois. Parce que ce que tu vois peut être un tremplin pour ton élévation, mon frère. Tu as besoin d'un Goliath sur ton chemin. Tu as besoin d'un ennemi sur ton chemin. Et quand ton ennemi va se présenter à toi, la situation va se présenter à toi. Tu vas dire, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Si là, tu as échoué, c'est Dieu qui a échoué. Tu as échoué, c'est Dieu qui a échoué. Tout dépend de ta mentalité, frère. Et puis, qui vous a dit que quand on part au combat, même on est, souvent dans le combat, même on échoue. Jacob a combattu un ange, il ne tapait pas, il a commencé à boiter. Mais qui savait qu'il avait reçu un coup? Lui seul, il connaît son témoignage. Mais malgré qu'il a reçu un coup, son nom a changé quand même. Donc même quand tu souffres, tu auras au moins une solution à ton miracle, mon frère. Alléluia. Même quand tu as abandonné, je t'assure que là où tu es assis ce matin, Dieu a un programme pour toi. Et Dieu est tellement, Dieu veut tellement accomplir ce projet que c'est à toi d'être en harmonie avec le projet que Dieu veut accomplir. Parce que tu n'es pas né ici pour être à la queue à Toulouse. Tu n'es pas né ici pour échouer. Quel que soit l'obstacle qui se mettra sur ton chemin, cet obstacle va toi te permettre d'avancer au nom de Jésus. Ça va te permettre d'avancer. Et quand on lit un peu la parole de Dieu, c'était même le même cas avec Anne. Quand on prend un peu Anne, le nom Anne veut dire faveur. Il y avait une autre femme qui s'appelait Pénina. Pénina. Souvent dans la vie, frère, tant que Pénina n'est pas sur ton chemin, tu ne vas pas évoluer. Tu as besoin toujours de Pénina pour être béni. Tu as besoin des calomnies pour être béni. Tu as besoin qu'on te rejette pour être béni. Même Jésus, on parlait mal de lui. Il dit, toi, tu te dis le roi des Juifs. Il dit, tu l'as déjà dit. Et puis, c'est quel visage de ton ennemi? Quand il te voit, il dit, toi là, tu as dit quoi? Tu as l'argent quoi? En vérité, il veut te dire que tu as l'argent. En vérité, il veut te dire que tu es riche. Donc, quand quelqu'un te dit que, toi là, tu as dit quoi? Tu as l'argent, ne rentre pas dedans. Tu l'as déjà dit. Donc, souvent, c'est ton ennemi qui te montre qui tu es. Alléluia. Mais toi, quand il te dit, oui, tu as déjà dit. Jésus savait qu'il était le roi des Juifs, mais il n'a jamais prononcé, je suis le roi des Juifs. C'est ses ennemis qui lui ont dit, toi, tu prétends être le roi des Juifs? Toi, tu l'as déjà prophétisé. Alléluia. Amen. Donc ça fait que, quand Anne est arrivée, il y avait une autre personne du nom de Pénina. Anne était la femme de qui? D'Elkana. Alléluia. Elkana avait toutes les bénédictions. Alléluia. Elkana était un homme qui était béni de Dieu. Il venait de Ephraïm, qui était lui aussi fertile. Donc il n'avait pas lui des problèmes de stérilité. Mais le problème de stérilité était dans la vie de qui? De Anne. Et quand Pénina la voyait, Pénina vient, elle dit, toi là, ton ventre est cimetière. Tu ne peux pas enfanter. Tu n'es rien. Et la dame se mettait à pleurer. Parce que quand ton ennemi te fait souffrir, ça t'emmène à prier. Ça t'emmène à jeûner. Ça t'emmène à chercher Dieu. Mais ce qui est bon, c'est que le nom Pénina veut dire quoi? Pénina veut dire quoi? Bijou, ornement. Pourquoi la Bible dit ça veut dire bijou? C'est-à-dire ton ennemi là, les calomnies, ils ne vont jamais cacher les calomnies, ils vont présenter ça aux gens. Quand quelqu'un met un bijou, il met ça ici. Pour que tout le monde voie. Donc partout où tu passes, on te présente tes échecs. On présente tes échecs, alléluia. Mais quand on présente tes échecs, toi ça ne doit pas te faire peur. Ce qu'on te présente, c'est un moyen pour toi t'élever. C'est un moyen pour entrer dans ta
destinée. Même Pharaon a vécu ce problème. Quand Pharaon a vécu ce problème, il a appelé un homme qui était un équilibré des songes, qui était Joseph. Quand Joseph est venu, la situation de la famine a amené Joseph à régner, frère. Alléluia. Quel que soit ce que tu es, il y a une situation dans ta vie qui va toi t'élever. Parce que tu n'es pas né pour mourir maintenant. Tes ennemis ont échoué depuis le commencement. Ils ne pourront pas te vaincre. L'ennemi du dehors ne pourra jamais te vaincre au nom de Jésus. Goliath est une situation. Goliath est un problème qui est en face de toi. Alléluia. C'est pourquoi je vous assure, frère, je crois tellement la puissance de Dieu en toi. Je crois en ton potentiel que rien ne doit te limiter. Rien ne doit te stopper, chrétien. Aucun homme sur la terre ne doit te stopper. Si quelqu'un veut te stopper, c'est qu'il n'a rien compris. Si aujourd'hui tu es abandonné par l'homme ou bien la femme la plus importante de ta vie, c'est qu'elle n'est pas faite certainement pour traiter avec toi. Ceux qui sont faits pour traiter avec toi seront avec toi. Ils vont te booster, ils vont te challenger pour t'accompagner dans ta destinée. C'est pourquoi ce que tu entends, fais attention à ce que tu entends. Goliath, j'ai besoin de toi. Qui a besoin de Goliath? Qui pense qu'il... Oh, d'autres, c'est pas tout le monde qui lève la main. D'autres disent, on a trop vu Goliath. Vous savez... Qui a trop vu Goliath? Non, vous n'avez pas vu Goliath. Vous, les petits sorciers de famille, c'est pas Goliath, hein? Hein? Alléluia! Je nous assure, frère! Tout à l'heure, quelqu'un vient ici. Il dit, bon, on donne un décret, vous ne priez plus si on ferme la salle. Mais là, la Dieu sait que Dieu va donner une belle salle. Dieu fonctionne comme ça.
Amen.
Alléluia! Quand Dieu ferme une porte, c'est qu'il ouvre une autre porte. Quand Dieu ferme ici, c'est qu'il ouvre une autre porte. Avez-vous déjà vu Dieu abandonner celui qui lui fait confiance? Alléluia. Je t'assure qu'il faut croire en ton potentiel. Et même quand nous lisons la parole de Dieu, vous savez, ce qui m'a plu avec le Seigneur, c'est que les chrétiens ne font pas attention souvent. C'est-à-dire l'ennemi du déol, on peut le tuer. La force de David, c'est que David a tué Goliath, mais il n'a pas tué Saül.
Amen.
Donc l'ennemi du déol, on ne le tue pas, on s'arrange avec lui. Mais l'ennemi du déol, tu peux le tuer. Je m'explique. Saül était un homme, allez, parce que David a vécu deux combats. Il a tué qui? Et David a vécu deux combats. Il a tué Goliath. Et pendant qu'il finit de tuer Goliath, qu'est-ce qui se passe? Ses vêtements de mouton, parce qu'il sentait une odeur de mouton. Et souvent, là, je vous assure, quand vous vivez une situation difficile, on est obligé, après le miracle, votre odeur en même temps change. Votre manière de parler change, parce que je vous prenais un peu même le président Sarkozy. Quand, avant, il n'était pas comme ça, mes amis. Il a gagné ce combat-là. Maintenant, quand il parle maintenant, vous savez, et puis... Hein? Donc, tu ne parles pas comme tu parlais avant. Donc, la victoire fait que ton langage change. Donc, quand David a eu la victoire, son langage a changé. On a changé ses vêtements. On l'a enlevé. Parce qu'il vivait dans une maison sycobois. Si. C'était difficile. Il était quelqu'un qui est toujours en train de nettoyer les moutons. Parce que sa maison serait en mur. Les moutons vont faire popo là-bas. Donc, il était toujours en train de s'occuper des moutons. Et quand il a gagné le combat, Jonathan lui a dit, non, viens, enlève-moi ton manteau. Là. Il a enlevé ce manteau. Puis il a dit, on lui a fait un manteau du roi. Et il est allé habiter maintenant à la cour royale.
Amen.
Et pendant qu'on l'emmène à la cour royale, il est maintenant en face maintenant de l'ennemi de qui? De la maison. Il a fini de tuer l'ennemi du dehors, mais il est en face maintenant de l'ennemi de la maison. L'ennemi de la maison, souvent, c'est ton propre frère. L'ennemi de la maison, souvent même, c'est ton pasteur. L'ennemi de la maison, c'est la soeur avec qui tu intercèdes. L'ennemi de la maison, c'est le loup qui a payé ta dîme. L'ennemi de la maison, c'est ceux avec qui tu t'aides. L'ennemi de la maison, c'est ceux pour qui tu pries. Mais ne les tue pas.
Amen.
Ceux on ne les tue pas. On dit, vous savez, je ne vais pas vous tuer. On va s'entendre. Oh Jésus, lisez la parole de Dieu. Donc, pendant que David a fini de tuer Goliath, il dit, Saül veut le tuer. Il dit, Saül, toi, je ne vais pas te tuer. Je ne vais pas te tuer. On va s'entendre. Saül ne veut pas. Il dit, non, je te laisse. Parce que l'ennemi de la maison, c'est Dieu qui va s'occuper de lui. L'ennemi du dehors, c'est toi qui dois aller contre lui. Mais celui de la maison, laisse Dieu s'occuper de lui. Pourquoi tu dois laisser Dieu s'occuper de lui? Parce que l'ennemi de ta maison va te montrer toutes les stratégies pour être béni. L'ennemi de la maison, c'est un instrument que Dieu va utiliser pour toi t'élever. Dieu, David n'a pas voulu tuer l'ennemi de la maison parce qu'il sait que c'est Saül qui allait lui montrer où on cache le coffre fort dans la cour royale. S'il avait tué là, Saül, il n'allait pas savoir où le budget de la royauté est. Donc il dit, j'ai tué Goliath, mais Saül, toi je ne te tue pas, tu es important. Il dit, eux, ils sont importants. Ceux qui te viennent à l'église là, tout ennemi autour de toi à l'église est important pour toi. Ils sont très importants. Alléluia. Donc pendant que Saül faisait, se jouait les sorciers autour de lui, David dit, non, vous savez, lui je ne vais pas le tuer. Donc David est resté, il a tué Goliath à quel âge? À 13 ans. Vous savez, en Israël, on ne va pas au combat jeune. Pour aller au combat, il faut avoir au moins 30 ans. Alléluia. Et même quand on prend Lévi, un nouveau Lévi qui se lance dans le ministère peut avoir à peine 21 ans. Et quand on prend un peu la vie de Jésus, c'est à 30 ans qu'il a commencé son ministère. Et en 3 ans, il avait déjà tout accompli. Parce que 30 ans, c'est l'âge de la maturité. Donc quand tu as dit à 30 ans, il faut laisser les choses de la boue. Il faut penser à la grandeur. Si tu as 30 ans, tu es né pour réussir au nom de Jésus. Et pendant qu'il a vu Saül, il dit, Saül, non. Si je te tue, comment je saurai que la facture du palais royal coûte 2 millions? Si je te tue, comment je saurai comment on mange à table quand on est roi? Si je te tue maintenant, comment je saurai le budget de la royauté? Donc il dit, je te laisserai vivre. Donc il a laissé vivre Saül. Donc il est resté sous la couverture de Saül pendant plus de 9 ans. Vous savez, c'est 9 ans, c'est 9 ans d'apprentissage. Alléluia. Donc pendant 9 ans d'apprentissage, il a pris devant quelqu'un qui ne l'aimait pas. Si c'était donc chrétien, non, lui il ne m'aime pas. Je vais l'abandonner, moi-même je vais me lancer dans le ministère. Lui non, je suis puissant, je suis ceci. Non, lui il est qui? Dieu est avec moi. Non, dis avec mon foi, il faut savoir lire les temps et les circonstances. Il faut savoir lire les temps et les circonstances. Donc, quand bien même Saül n'était pas approuvé, David dit, même si tu n'es pas approuvé, tu as quelque chose en toi qui me plaît. Ça veut dire que tu as le budget de la royauté. Alléluia. Donc l'ennemi de la maison, il ne faut jamais te lever contre lui. C'est quand je vois des chrétiens se prier dans la maison, Seigneur, je lis mon ennemi, c'est ma soeur qui est dans l'église qui m'a calomnié, mon ennemi dans l'église, Seigneur, c'est mon frère qui parle mal de moi, ce n'est pas ton ennemi. Celui qui est dans l'église qui parle de toi là, c'est parce qu'il voit l'annonce prophétique de ta gloire. C'est lui qui t'annonce l'annonce prophétique de ta gloire. Goliath ne peut pas t'annoncer, ne peut pas te parler de ton annonce prophétique. Goliath ne fait que se lever contre ton Dieu. Le sorcier se lève contre ton Dieu. Le mystique se lève contre ton Dieu. Mais l'ennemi de ta maison se lève contre ta destinée. Donc, puisqu'il se lève contre ta destinée, si tu le tues, tu ne sauras pas qui tu dois être. Donc, laisse-le vivre et tu sauras ce que Dieu veut faire avec toi. C'est pourquoi quand on prend un peu Joseph, la vie de Joseph était caractérisée en trois choses. L'amour du Père manifesté, dis avec moi, à son endroit. La deuxième chose, c'est qu'il avait, comme il était pas aimé de ses frères. Et la troisième chose, l'annonce prophétique de sa gloire. Alléluia. Mais l'annonce prophétique de sa gloire, qui l'a su? Même son propre père a eu un songe. Voilà déjà ici. Seigneur, mon père, là, il est ceci. Ma mère, je vais la tuer. Mon frère, je vais le tuer. Parce que ton frère, Christ ne doit pas mourir. Parce que pendant qu'il prie, là, il te voit en train de garer ta poche Cayenne devant l'église. Il te voit en train d'être propriétaire de maison ici à Toulouse. Donc, il voit ton avenir. Et pendant qu'il voit ton avenir, quand il vient à l'église, là, et quand tu le vois serrer sa mine, il faut dire, voilà un ennemi qui voit qui je suis. Mais ne le tue pas. Ne l'attaque pas. Il doit vivre longtemps. C'est pourquoi David n'a pas voulu tuer Saül. Il n'a pas voulu tuer Saül parce que Saül était un homme qui a appris beaucoup de choses à David. Auprès de l'ennemi de la maison, c'est comme un temps d'apprentissage. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Comprenez un peu la parole du Seigneur. Et si vous comprenez ceci, vous allez voir que vous serez mature dans la tête. Dans l'église, là, tu n'as pas d'ennemi ici. Dis à ton ami à côté, tu es mon frère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Maintenant, qui pense qu'il est né pour la grandeur? Qui pense qu'il est né pour la grandeur? Qui pense qu'il est né pour la grandeur? Je dis, qui pense qu'il est né pour la grandeur? Qui pense qu'il est né pour la grandeur? Si tu es né pour la grandeur, premièrement, commence à changer ton langage. Alléluia. Il faut changer ton langage, changer ta manière de penser. Ici à Toulouse, ça me fait mal. Si vous voyez tout à l'heure une soeur qui rentre, qui est peut-être que, ou bien un frère qui rentre, qui a changé de vêtements, qui a garé une voiture,
il est dans le faux. Mais pourquoi? Vous voulez que quelqu'un qui... Je ne comprends pas. Vous voulez que Dieu... Vous voulez qu'on soit à la tête. Vous êtes des gens que Dieu commence à bénir, la bénédiction devient diabolique. L'élévation devient diabolique. J'ai dit au frère David, il faut qu'on donne une autre image à l'église. Parce que quand les gens viennent, ça dit il y a deux choses. Vous savez même de nos jours pourquoi? Hein? Même en philosophie, ça se voyait. Pourquoi nos jeunes soeurs aiment marier soit des médecins, des corps habillés, parce qu'elles veulent se sentir en sécurité. Tu viens dans une église où tu sais que la barbe peut tomber sur ta tête un matin. Je ne suis pas en sécurité. Donc tu oublies de changer l'atmosphère autour de toi qui peut te montrer que tu veux grandir. Ça, c'est simple. L'homme regarde à ce qu'il voit. Mais quand on va commencer à changer, certainement que l'argent de la caisse est parti quelque part. Oh! Dis avec moi, c'est des pensées nauséabondes. Alléluia. Amen. Et quand tu as une pensée nauséabonde, il ne faut pas t'étonner que ça ne t'arrange pas. Il faut aimer la grandeur. Amen. Dis à ton ami, il faut aimer la grandeur. Si tu aimes la grandeur, Dieu va te bénir. Tu aimes la grandeur, Dieu va changer ta vie. Tu aimes la grandeur, ta situation va changer. C'est pourquoi je crois par la puissante main de Dieu que frère, ta situation va changer. Dieu va reconstruire ta vie. Alléluia. Lève les deux mains vers le ciel. Lève les deux mains, je vais parler sur ta situation. Je déclare au nom de Jésus sur ta vie que maintenant, ta situation de vie change. Là où il y avait un problème qui te tourmentait depuis longtemps, que la gloire de Dieu vienne apporter une restauration finale. Afin que plus jamais tu ne sois la même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'un esprit de grandeur soit ton partage. Que l'onction de Dieu soit ton partage. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Que Goliath qui se mette au devant de toi, que le Seigneur le fasse chuter au nom de Jésus. Même si c'est des ennemis de la maison, si c'est des hommes de Dieu, des pasteurs, des enfants de Dieu qui se sont levés contre toi, que Dieu te donne d'avoir autorité sur eux. Je déclare ces paroles sur ta vie au nom de Jésus. Plus jamais le diable aura pouvoir sur ta vie. Plus jamais le diable viendra dominer sur toi. Parce que tu es né pour réussir. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour avoir le pouvoir. Tu es né pour avoir l'autorité. De par ta parole, que des situations changent. Ce que tu avais perdu, je le déclare que cette année, le Seigneur te l'octroie avant que l'année ne finisse au nom de Jésus. Tu auras tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. Tu auras tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. Si tu avais perdu ton foyer, Dieu te restaure ton foyer. Tu avais perdu ton argent, Dieu te restaure ton argent. Tu avais perdu ton ministère, Dieu te le restaure au nom de Jésus. Tu avais perdu ta gloire, Dieu te ramène dans la gloire. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour être derrière, mais tu es né pour parler. Tu es né pour apporter un décret au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais parler à quelqu'un qui est là parmi nous. Dieu me dit, regarde, il dit, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que ta bouche sera ma bouche femme. Il me dit, ta bouche sera ma bouche. Il va faire une alliance avec ton langage. Il va faire une alliance avec ton langage. Ce que tu diras va s'accomplir. Dieu t'a mis un pouvoir. Il a mis un pouvoir sur ta langue. Tu as le pouvoir sur ta langue. C'est pourquoi prophétise le bien sur ta destinée. Parle en ta faveur. Parle en ta faveur. Prophétise sur toi et tu verras des choses se produire. Prophétise sur toi et tu verras des choses se produire. My God. La main de Dieu est là ce matin. L'Esprit de Dieu me parle de quelqu'un, je vous assure. Commando, my God, viens m'aider s'il te plaît, le frère. La main de Dieu est là. Il y a une sœur en qui Dieu a mis un pouvoir, Dieu a mis un potentiel. Dieu a mis un potentiel. Dieu a mis un potentiel. Dieu a mis un potentiel sur sa vie. Tu vas faire entrer ta famille dans une nouvelle ère. Tu vas faire entrer ta famille dans une nouvelle saison. Tu vas faire entrer ta famille dans une autre époque. Tu vas faire entrer ta génération dans un nouveau temps. Je t'assure, parce que Dieu veut aller loin avec toi. Tu m'entends, femme? Dieu veut aller loin, loin avec toi. Et c'est sur toi qu'il compte. C'est sur ta vie qu'il compte. Parce que toi, tu es né pour quelque chose. Tu es né pour faire entrer ta famille dans une nouvelle étape, dans une nouvelle époque. Il dit, fille, je t'ai aimé depuis le sein de ta mère. Et j'ai vu tes pleurs. Je t'ai vu te lamenter en ma présence. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles pour toi. Ce matin, toutes choses deviennent nouvelles pour toi. Tu le verras, tu me verras. Je suis à l'œuvre dans ta vie. Je suis à l'œuvre. Je suis à l'œuvre dans ta vie. My God. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, Dieu te donnera ce lieu en possession. Que Dieu te donne d'avoir des opportunités d'affaires ici à Toulouse. Qu'il te donne d'avoir des opportunités d'affaires ici à Toulouse.
qui te donne de régner maintenant et à jamais dans ta génération. Tu as le ministère, que ton ministère prenne une autre tournure. Tu veux travailler, que les portes du travail s'ouvrent au nom de Jésus. Parce que le diable n'a pas autorité sur toi. Dieu seul peut décider sur ta génération. Dieu seul peut décider sur ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Maintenant, maintenant tu es né. Tu es né. Tu es né pour vaincre. My God, l'onction est en train d'arriver, my God. La main de Dieu est là, la main de Dieu est là. La main de Dieu est là. Je vais maintenant invoquer la grâce de Dieu sur votre vie. Le Saint-Esprit va te oindre ce matin. Maintenant, il va te oindre. Saint-Esprit, viens, touche au nom de Jésus. L'Esprit est en train d'arriver, l'Esprit est en train d'arriver. L'Esprit est en train d'arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu est en train d'arriver, la main de Dieu est en train d'arriver. Voici l'onction sur ta vie, reçois l'onction de Dieu. Reçois la main de Dieu au nom de Jésus. Va et perce au nom de Jésus. Reçois l'onction, reçois l'onction, reçois l'onction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que plus jamais ta vie ne soit la même. Que plus jamais ta vie ne soit la même. Que plus jamais ta vie ne soit la même. Que plus jamais ta vie ne soit la même. Que plus jamais ta vie ne soit la même. Que plus jamais ta vie ne soit la même. Au nom de Jésus. Que plus jamais ta vie ne soit la même. My God. Que plus jamais ta vie ne soit la même. Au nom de Jésus. Dieu est en train de te donner des richesses de cette ville. Dieu va t'élever dans cette ville, femme. Il va t'élever dans cette ville. Il te l'avait dit. Il te l'avait dit. Tu vas prêter aux gens. Tu vas prêter aux hommes forts. Tu vas prêter aux gens. Tu vas prêter aux gens. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. My God. Gloire et honneur te soient dus, Seigneur. Pour ton esprit. Pour ta force. Touche au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus. Quelqu'un va rendre témoignage de la main de Dieu sur ta vie. Tu as une forte somme bloquée quelque part. L'onction va venir décanter cette situation-là. L'Esprit de Dieu va venir décanter ta situation. Il va venir décanter cette situation. Dieu va venir décanter ta situation. Femme, Dieu va venir décanter ta situation. Tu m'entends? Dieu va venir décanter ta situation. Dieu va venir décanter ta situation. Dieu va venir décanter ta situation. Dieu va venir décanter ta situation parce que tu es de Dieu. Tu as longtemps vécu des trahisons. Tu as longtemps vécu des trahisons. Plusieurs trahisons. Des gens ont parlé. Ils ont parlé sur ta vie. Ils t'ont dit des choses. Ils t'ont dit des paroles. Ils t'ont dit des paroles que tu n'étais pas. Ils ont libéré des paroles à ton endroit. Pourtant, tu n'étais pas ceci. Et tu as souffert dans ton intérieur. Tu as pleuré dans ton intérieur. Pourtant, ce n'était pas toi. Tu souffrais d'entendre ces paroles des autres. Tu as souffert de la trahison des gens. Tu as souffert du manque des gens. Tu as souffert de l'abandon des gens. Dieu dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Jamais moi, je n'ai abandonné celui qui me fait confiance. Il dit, jamais moi, Dieu, je n'ai abandonné celui qui me fait confiance. Il me dit, tout est possible à celui qui croit. Femme, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. J'ai vu à la sincérité de ton cœur. J'ai vu à la sincérité de ton cœur. Tu as tant donné aux autres. Tu as tant donné aux autres, mais tu n'as rien reçu. Mais ce matin, je me lève pour toi. 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 Touche! My God. Soyez bénis dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Tiens-toi debout dans la présence du Seigneur.